L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Il est 5h. Bon matin à tous. Je m'appelle Jean-Simon Buis. Bienvenue dans l'amorce. Lundi déjà, le 23 septembre 2019. Il reste une semaine au mois de septembre. Après ça, on est en octobre. Est-ce que les feux ont commencé à tomber chez vous? Moi, j'ai passé mon premier coup de râteau en fin de semaine, puis j'en ai profité parce qu'il faisait drôlement beau. Surtout samedi, là. Hier, on prévoyait plus beau que ça. Finalement, faisait un peu plus gris. On a eu quelques averses. Par contre, les températures étaient vraiment agréables. C'était parfait pour faire des petits travaux autour de chez soi, ramasser les affaires, commencer à tasser des trucs dans le cabanon pour rentrer à la table de patio, toute la quête. Moi, j'étais un peu là-dedans en fin de semaine, là. Puis honnêtement, la température était de notre côté pour ça. Là, ça s'est un petit peu gâté côté vent, là. Moi, cette nuit, je sais pas si ça a été votre cas, mais les vents assez forts m'ont réveillé une couple de fois parce qu'on garde les fenêtres ouvertes pour faire rentrer l'air au maximum. Mais là, tu laisses les fenêtres ouvertes dans différentes pièces de la maison. Puis des fois, vous savez ce que ça fait avec les courants d'air? Une porte qui claque parce qu'il y a un gros coup de vent qui passe par une fenêtre. Là. Moi, ça m'a fait ça une couple de fois cette nuit. Fait que là, ça réveille le chien. Tu vas sortir le chien, tout ça. Mais par contre, les températures sont très agréables, sauf que des rafales de vent jusqu'à 40 km/h sont prévues aujourd'hui. D'ailleurs, les détails météo pour la journée et pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est des nuages avec de la pluie intermittente. On parle de hauteur prévue de 10 mm avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, rafales à 40, comme je vous le disais. Les températures autour de 20 degrés, donc c'est encore assez chaud et agréable. On reste sur une belle lancée présentement. Les normales de saison, pour vous donner une idée, c'est 15 degrés les maximums. Donc, on reste au-dessus de ça. Demain mardi, on revient pas mal à ce qu'on devrait ressentir comme température ces temps-ci. Donc, demain mardi, des averses avec 14 comme maximum au mercure. Pour mercredi, c'est des nuages avec un maximum de 15 degrés. Un peu plus à long terme, cette semaine, jeudi, c'est de la pluie avec 16 degrés. Vendredi, on attendrait le retour du soleil avec 19. Attends pour le week-end, mais là, bon, moi, je vais pas commencer à faire des prophéties pour la fin de semaine prochaine. Ça a bien trop le temps de changer. Pour le moment, ben, prévoyez une semaine plus nuageuse, un peu plus à l'image de ce qu'on peut attendre fin septembre, après une fin de semaine plus chaude, plus clémente, des températures plus automnales. Mais présentement, c'est encore 22 degrés à Québec. Donc, une vraie nuit d'été qui contraste avec les petits 5-6 degrés qu'on avait la semaine dernière. Hein. C'est des transitions de saison, c'est tout le temps particulier. Hein. L'automne, le printemps, on a de la misère à savoir exactement comment s'habiller. Là. Mon réalisateur Jean est arrivé en Bermuda matin, moi j'osais pas trop y mettre. Fait que c'est toujours compliqué un peu de choisir quoi mettre dans le garde-robe. Un tour dans l'actualité en ce lundi pour donner le ton à la semaine dans l'actualité. Bien évidemment, un mot sur la campagne électorale fédérale. C'est ce que j'aime qu'on fasse un peu chaque matin. Revenir un peu sur ce qui s'est passé les heures précédentes et les journées précédentes. En fin de semaine, je vous mentionne, là, samedi, il y avait une journée de congé pour les conservateurs, les libéraux, là, Andrew Scheer, Justin Trudeau n'avaient pas d'activité. Par contre, les autres partis ont été à pied d'œuvre et il y a eu des annonces hier également. On a parlé pas mal d'environnement. Puis je ne vais pas trop m'attarder sur les annonces précises par parti. Ce n'est pas particulièrement ça qui m'intéresse ce matin. Ce qui est intéressant, c'est l'effet de la fameuse controverse de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, entre mercredi et vendredi, disons que le mot blackface a été prononcé probablement plus de fois qu'il l'a été dans les 5 ou 10 dernières années. Hein? Le fameux scandale entourant Justin Trudeau déguisé, on en a parlé beaucoup abondamment, plusieurs photos qui sont ressurgies du passé pour hanter le premier ministre sortant. Et donc, ce qu'on attendait également, c'est de voir si ce scandale-là aurait des effets tangibles dans la campagne électorale, donc dans les intentions de vote des électeurs. Donc, ça prenait des sondages pour savoir qu'est-ce que ça avait comme effet. Alors, ce matin, j'ai deux sondages desquels je peux vous donner les résultats pour vous donner une idée un peu où est-ce qu'on en est dans la course suite à l'histoire du blackface et de Justin Trudeau. On commence avec un sondage Nanos. C'est celui qui fait le plus mal aux libéraux, si on suit aux résultats. Un sondage Nanos qui a été publié pour le Globe and Mail et CTV. Premier sondage depuis la publication des photos de Justin Trudeau arborant un maquillage de type blackface. Ben, ce qu'on apprend, c'est que les conservateurs seraient maintenant devant les libéraux et avec 5 % d'avance, ce qui est un peu une première dans la campagne électorale. Là. Souvenez-vous que depuis un mois à peu près, quand on sonde les intentions de vote des gens, on est toujours à peu près nez à nez autour de 35 %. Ben là, selon le Nanos, pour le Globe and Mail et CTV, on serait à 37 % pour le parti d'Andrew Scheer, les conservateurs, alors que les libéraux auraient subi une chute de 3 points et seraient à 32 %. Ben, pas beaucoup de changements en arrière, là, je vous le dis, là, la course n'est pas là. Le NPD, c'est 14 % des voix, mais donc on aurait une chute de 3 % des libéraux selon le Nanos et une avance bon, je dirais pas confortable, là, 5% en début de campagne électorale, ça a le temps amplement de changer. Il peut se passer un paquet de trucs encore. Là. Vous avez vu comment une photo d'apparence banale a changé un peu le vent, puis les libéraux se sont retrouvés avec le vent de face, puis là, ils pédalent pour essayer de se détacher de ça le plus rapidement possible. Mais ce sera peut-être le tour des conservateurs cette semaine. Seul l'avenir nous le dira. Et il y a un deuxième sondage, ce matin, à la une du Soleil. Cette fois-ci, c'est un sondage Main Street, qui, lui, est un peu plus clément en termes d'intention de vote pour les libéraux, c'est-à-dire que ils sont pas mal nez à nez avec les conservateurs, sauf que ce qui est consistant, ce qui est cohérent, c'est la perte, la baisse de 3% des intentions de vote. Selon le Main Street, il aurait perdu 3% des intentions de vote en 3 jours et il serait maintenant à 33,9%, alors qu'il était à 36,8% avant le scandale du blackface. Et les conservateurs, eux, auraient pas bougé à 34,8%. Donc, on aurait une très, très mince avance, là, pratiquement égalité statistique, des conservateurs face aux libéraux. Donc, 34,8 contre 33,9. Mais dans les deux cas, les libéraux auraient perdu des plumes un peu. Ce qui est un peu surprenant ou pas, là, ça dépend un peu où est-ce que vous vous situez par rapport à la controverse, c'est qu'au Québec, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. C'est pas mal la province où est-ce qu'il y a eu le moins de mouvements dans les intentions de vote en ce qui a trait aux libéraux. Ce qui fait en sorte que c'est difficile de voir si le scandale a réellement eu un effet. Sauf que c'est cohérent avec les réactions des gens. Hein. Si vous avez scruté un peu les réactions officielles, mais aussi le pouls sur les médias sociaux, les gens semblaient un peu moins offusqués, un peu moins scandalisés de ce qui s'est passé avec Justin Trudeau avec ses différents costumes qu'ailleurs dans le Canada anglais. Donc, c'est peut-être ça qui explique que les libéraux soient un peu moins entachés, un peu moins atteints au Québec qu'ailleurs au Canada. Alors, c'est ça pour ce qui est de la campagne électorale. Si vous vous posez la question où seront les chefs aujourd'hui, Justin Trudeau va être en Ontario. Même chose pour Andrew Scheer. Et François Blanchet, bien sûr, est au Québec. Là, il va se promener entre Belleuil, Saint-Jean-sur-les-Richelieu, La Prairie. Jack Meeting, Elisabeth May du NPD du Parti vert vont être dans les Maritimes. Et Maxime Bernier du Parti populaire du Canada va être du côté de Saint-Georges. Lui, on voit qu'il met pas mal d'efforts pour être élu dans sa propre circonscription en Beauce. C'est ce qui vous attend donc pour la campagne électorale aujourd'hui. Deuxième point sur lequel je veux m'attarder, on se transporte à la une du Journal de Québec. Des chiffres qui font peur un peu, franchement, d'autant plus que c'est une hausse qui est fulgurante et qui est régulière d'année en année. C'est les fameux antidépresseurs. Au Québec, on en consomme beaucoup, 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 beaucoup. Et là, on a des chiffres qui démontrent que la consommation d'antidépresseurs a particulièrement augmenté chez un groupe en particulier, c'est-à-dire les jeunes filles. Les jeunes adolescentes de 17 ans et moins prennent des antidépresseurs de plus en plus et c'est une hausse extrêmement importante dans les 5 dernières années. D'abord, je vais vous faire un portrait global un peu. Là. Les chiffres de la RAMQ indiquent que de 2014 à 2018, là, en général dans la population, en 2014, vous aviez 421 000 personnes qui prenaient des antidépresseurs. Aujourd'hui, c'est 514 928. C'est plus d'un demi-million de Québécois qui auraient pris des antidépresseurs en 2018. Okay? Si on regarde du côté des jeunes filles de 17 ans et moins, en 2014, 2031. En 2018, 3423. Ça, c'est 68% de hausse pour les jeunes filles en ce qui a trait à la prise d'antidépresseurs. Et on est allé du côté du Journal de Québec essayer de comprendre comment expliquer un peu ce phénomène-là. Pourquoi est-ce que ça augmente autant? Et pourquoi chez cette tranche de la population-là? Ben, d'abord, les experts qui ont été interrogés disent que le fait que ce soit facile à prescrire et que ce soit une solution qui est prisée par les omnipraticiens, les médecins de famille, très rapidement, ça fait en sorte que c'est peut-être un peu trop accessible. Donc, on va avoir des jeunes filles qui vont se présenter, qui vont dire, je file pas, ça va pas bien dans ma vie. Et rapidement, en un rendez-vous, le médecin de famille va prescrire les antidépresseurs, ce qui fait en sorte que on pourrait se retrouver avec des jeunes filles qui en auraient pas nécessairement besoin, mais qui tombent là-dessus très rapidement comme solution de premier recours. Donc ça, c'est une des explications qui est avancée. L'autre explication aussi, c'est le fait que justement, ça bloque rendu au palier des médecins spécialistes. On n'est pas capable, du côté des parents ou des jeunes filles, de les référer à des psychiatres, à des pédopsychiatres qui, eux, seraient à même de faire un diagnostic un peu plus poussé. Donc, ça bloque au premier étage. On donne des pilules rapidement pour déloader le système et on se retrouve avec la conséquence que beaucoup de jeunes filles en prennent. Et l'autre élément parallèle à regarder qui explique peut-être plus la tranche de population qui est touchée. Remarquez que ça augmente aussi chez les jeunes garçons, mais moins que chez les jeunes filles, là. C'est les fameux réseaux sociaux. C'est le fait que les jeunes filles seraient sous le coup de pression intense de paraître bien sur les médias sociaux avec des modèles qui sont un peu inatteignables, ce qui fait en sorte que ça pourrait les toucher en termes de santé psychologique et ça les rend plus propices, disons, à la maladie mentale, à la déprime ou à consulter en médecine, ce qui fait en sorte que les antidépresseurs seraient plus présents et plus en hausse chez cette tranche de la population-là. Et là, ce qu'on craint du côté des spécialistes, c'est qu'on se retrouve un peu avec un effet Ritalin. Vous savez aussi que pour le TDAH, le Ritalin, bon, ça, c'est encore une question qui polarise beaucoup, là, mais le Ritalin est consommé de façon très importante au Québec. Les diagnostics de TDAH augmentent de façon fulgurante à chaque année. Et là, les médecins spécialistes craignent que pour ce qui est des antidépresseurs, on se retrouve avec une situation similaire. Alors, c'est quelque chose qui est pas, évidemment, pas très, très souhaitable. Et ce qu'on souligne également, c'est peut-être que si on avait plus d'activités sportives, un peu moins d'écran, on n'en arriverait pas là. C'est plate, mais c'est une chanson qu'on chante un peu trop souvent et qui donne pas beaucoup de résultats en termes de changement. Le troisième point sur lequel je voulais m'attarder, et lui risque de faire jaser pas mal, surtout si vous êtes un partisan du troisième lien à Québec, là. Attachez-vous serré, puis faites pas de faux mouvements si vous êtes en colère à suite à l'extrait que je vais vous faire entendre, mais je suis pas sûr qu'il va faire beaucoup d'heureux à Québec. C'était hier soir le retour de Tout le monde en parle, la nouvelle saison qui commençait. Et parmi les invités à Tout le monde en parle hier soir, il y avait l'ancien maire du plateau Mont-Royal à Montréal, Luc Ferrandez, qui a jamais été reconnu comme un ardent défenseur des automobilistes. C'est un euphémisme. Hein. C'est quelqu'un qui, au contraire, a mis pas mal de bâtons dans les roues des automobilistes dans son quartier. Quelqu'un qui est très pro-transport en commun, un environnementaliste acharné aussi. Et accessoirement aussi un chroniqueur maintenant au 98.5 à Montréal depuis qu'il n'est plus maire de l'arrondissement plateau Mont-Royal. Et parmi les différents sujets qui ont été abordés avec Luc Ferrandez hier soir, la fameuse question du troisième lien. Alors, je vous laisse écouter. Et bon, comme je vous le dis, prenez une grande respiration parce que si vous êtes partisan du troisième lien, je suis pas sûr que vous allez être tout sourire suite aux propos de M. Ferrandez. Alors, je vous laisse écouter l'opinion de Luc Ferrandez quant au troisième lien Québec-Lévis.
Je peux pas en penser plus de mal. C'est impossible. Pour moi, c'est un projet de République de bananes. Pour moi, c'est l'équivalent de la construction de la copie de la cathédrale du Vatican en Côte d'Ivoire dans la brousse. C'est le pire projet de transport de l'Occident. Pour 10 000 passagers, imaginez-vous, si ces 10 000 passagers-là, là, il y avait un péage, puis que ces 10 000 passagers-là devaient payer la valeur du bien qui est construit, ça coûterait plus de 120 $ par passage.
120 $
par passage. Parce qu'il n'y a pas assez de monde à l'Est, en le construisant à l'Est, il n'y a pas assez de monde pour justifier la construction de ce lien-là. Et même si on développait des quartiers à l'Est de Lévis, il n'y aura jamais assez de monde pour justifier un ouvrage de ce coup-là.
Bon, vous savez, dans la stratégie, se faire des amis, c'est peut-être pas le meilleur moyen qui a été employé par Luc Ferrandez. Marquez, c'était peut-être pas son objectif, mais bon, il va de mots assez durs à l'endroit du troisième lien. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Pas particulièrement, là. C'est sûr que si vous allez sonder un peu du côté de Montréal, la région métropolitaine, c'est pas un projet qui est très, très populaire. Par contre, vous allez sans doute être plusieurs à répondre, mais à Montréal, il y a beaucoup de projets d'envergure qui coûtent des milliards de dollars pour développer la région métropolitaine, qu'on pense au remplacement du pont Champlain, le nouveau pont Samuel de Champlain, le réseau électrique métropolitain. Il y a un paquet de projets qui ont été faits, autant pour les automobilistes que pour les usagers du transport en commun. Alors, la plupart des partisans du troisième lien vont dire, ben là, y a-tu moyen que nous autres aussi, on puisse développer notre économie, développer nos systèmes de transport avec un tunnel qui en fait, va juste compléter la boucle puis le trajet, le tracé routier qu'on devrait avoir depuis des décennies. Hein? Parce que vous savez que si on regarde dans le passé, si on fouille un peu dans les archives, puis qu'on va voir dans les années 60-70, les projets autoroutiers qui étaient prévus dans la ville de Québec, un troisième lien faisait partie de ça depuis belle lurette. Là. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, que c'était dans les cartons. Ça faisait des décennies qu'on disait, ben oui, il faut compléter la boucle, il faut s'assurer de pas juste avoir un U, mais une espèce de O. Alors, le troisième lien, pour plusieurs personnes, ça tombe sous le sens, là, qu'il y ait beaucoup de gens à l'Est, comme le mentionne M. Ferrandez, il dit qu'il n'y en a pas assez, là, ben, ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de logique à vouloir compléter une boucle. Puis là, après ça, ben, vous pouvez blâmer qui vous voulez. Là. Oui, c'est sûr que les décideurs du passé auraient peut-être pu le faire avant, puis que là, rendu en 2019, les coûts sont augmentés. Oui, sauf que parfois, il faut ce qu'il faut, puis c'est certain que des propos comme ceux-là ben vont pas faire en sorte que Luc Ferrandez va faire accueillir avec beaucoup d'applaudissements s'il vient faire un tour dans la grande région de Québec. Il est 5h15, on prend une courte pause. On jase avec Dan pour retour.
La chronique de Pierre-Yves McSween dans Bouchard en parle.
Lundi au vendredi, 7h25.
Au FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Quand t'es le premier sur le chantier le matin ou le dernier à sortir ton VTT du sentier, quand ça te prend un camion puis que tu veux te faire conseiller par un champion, ton pick-up, tu le prends chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Les camions, ils connaissent ça. Durant la grande liquidation, obtenez jusqu'à 25% de rabais sur le PDSF, sur les Sierra et Silverado Limited ou 0% jusqu'à 84 mois. Toujours plus de 100 camions neufs en inventaire, prêts à livrer. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond, ouvert le samedi.
Bonjour l'automne. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau look. Chez Iris, quel que soit votre style, trouvez votre monture idéale parmi de prestigieuses collections telles que Tom Ford, Gucci, Ray-Ban, Michael Kors et Nike. Jusqu'au 25 novembre prochain, économisez 100$ à l'achat d'une monture sélectionnée et de lentilles de prescription traitées anti-reflets et 125$ sur chaque paire de lunettes prescrites additionnelles. Visitez iris.ca pour plus de détails. Iris, l'expérience d'une meilleure vision.
Nos véhicules rouillent. Heureusement, il existe un expert dans le domaine. Antirouille Métropolitain. Depuis 1976, leur savoir-faire, tant technique que scientifique, a permis l'application de plus de 3 millions de traitements anti-rouille. Plus de 165 000 dans la dernière année seulement. Cette expertise leur permet d'être le seul réseau spécialiste de l'anti-rouille à être recommandé par CIA à Québec. Pour plus de détails sur les avantages de notre traitement, visitez antirouille.com. Antirouille Métropolitain, un investissement intelligent et payant.
Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire et de porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. Et en ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à 5 000$. Rendez-vous sur monétudesineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Syneos Health. Pour un futur en santé.
Vous ne faites pas les choses à moitié et comme Volvo, vous vivez vos passions à fond. Équipé d'une garde au sol plus élevée et d'un espace de chargement pensé pour vous, l'élégante Volvo V60 Cross Country transformera vos escapades en expériences mémorables. Sortir des sentiers battus n'aura jamais été aussi exaltant. Louer ou financer une Volvo V60 Cross Country 2019 à un taux de 2,9% et économiser 2 500$.
Détails chez Volvo de Québec, volvodequebec.com.
Santé mentale, isolement, décrochage scolaire, toxicomanie, itinérance. La liste est longue. Et pourtant, il n'y a pas une cause plus importante qu'une autre. Alors nous irons droit au but. Pour te dire qu'avec Centraide, tu n'as pas à choisir là où c'est important d'agir. Nous aidons plus de 50 organismes de ta région. Parce que nous croyons que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. Donnons généreusement, droit au cœur, Centraide.
Durant les travaux sur la route de l'église, tous les commerces que vous aimez demeurent ouverts en tout temps. Oui, une centaine d'entreprises qui vous attendent avec stationnement accessible. Pendant les travaux, encouragez nos commerçants. Ça vaut le détour. Un message de la Ville de Québec.
L'amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h18, bon matin, si vous venez de vous joindre à moi, bienvenue dans l'amorce en ce lundi 23 septembre 2019. Un petit tour à la météo, voir qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures et les prochains jours. Vous risquez d'avoir été peut-être réveillé cette nuit si vous avez laissé les fenêtres ouvertes par des vents assez forts, des rafales jusqu'à 40 km/h et ça va se poursuivre aujourd'hui. Temps gris avec de la pluie intermittente toute la journée pour aujourd'hui lundi. On dit hauteur prévue de 10 mm du côté d'Environnement Canada pour la pluie. Et par contre, la température est assez chaude. On s'attend à peu près à garder 20 degrés toute la journée. Demain mardi, ça se rafraîchit un petit peu, maximum de 14 avec des averses. Mercredi, même scénario. Par contre, pas de pluie, seulement des nuages avec un maximum de 15. tendance à long terme, est-ce qu'on revoit le soleil à un moment donné? Pas avant vendredi, selon mes prévisions actuelles. Le jeudi, c'est encore de la pluie avec 16. Et vendredi, on aurait le retour du soleil avec 19 degrés. Remarquez que les températures restent intéressantes et clémentes pour toute la semaine. Et présentement, on a encore 22 degrés à Québec. On se croirait une belle nuit du mois d'août. Salut Dan!
Salut Jean-Simon!
Un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end.
Ouais, c'était une température parfaite, mais ça a été des résultats parfaits aussi pour nos équipes préférées. D'abord, le Rouge et Or et les Remparts ici dans la région qui l'ont emporté. Le Rouge et Or envoyait dans la mêlée un jeune carrière recrue. Donc, Samuel Chénard, après la défaite contre Montréal, ouais, a été tassé. Glenn Constantin dit que c'est pas la panique, sauf qu'il prend la décision d'envoyer un corps recrue. Donc, le résultat, c'est que le Rouge et Or a gagné. On peut lire entre les lignes, exact. Ouais. Le Rouge et Or a gagné contre McGill, mais c'était quand même 14-5 après un quart. Donc, c'est pas des statistiques impressionnantes pour le jeune Bolduc, mais l'important, c'est que l'équipe a gagné. Les Remparts vont faire leur ouverture locale ici vendredi. Et j'ai l'impression que ça va être le fun d'aller voir les Remparts cette année. J'ai pas dit ça souvent dans les dernières années. Mais cette année, ça va être la fun. Ils ont gagné deux matchs en fin de semaine. Ils sont jeunes, mais je pense qu'ils vont être excitants. James Malatesta, vendredi, à Victo, a marqué deux buts. C'est le gars qui était un peu controversé, souviens-toi. Choix de septième ronde, qui était supposé aller aux États-Unis. Patrick Roy a convaincu le jeune et sa famille de l'amener à Québec. Donc, il joue ici. C'est un ancien des Lions du Lac-Saint-Louis. Il est excellent. Deux buts vendredi soir. Hier, Pierre-Hugues Dubé, l'ancien du Blizzard, a marqué trois buts. Les Remparts ont gagné 6-4 à Drummondville. Donc, l'ouverture locale, je vous rappelle, c'est vendredi contre Rouyn-Noranda. Si on va un peu plus loin que Québec, à Montréal, le Canadien a gagné un match pré-saison samedi contre Ottawa.
Une excellente nouvelle.
Toujours parfait. 4-4. Pourquoi tu dis excellente nouvelle?
Non, mais pour toi, parce que on sait comment t'aimes le CH.
Ben absolument.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis.
Très content.
Fait que tu partages mon enthousiasme.
Très content.
Ben, c'est
ouais,
ça. Je suis sûr que tu partageais mon enthousiasme.
OK. Ce soir, c'est Toronto qui s'amène au Centre Bell. Puis les Alouettes. Quel match samedi. Tirait de l'arrière 34-17 à la demi. Ils ont gagné 38-37. Les Alouettes sont 7-3 à leurs 10 derniers matchs. On considère qu'ils avaient perdu leurs deux premiers matchs de la saison. C'est vraiment... et ça non plus, j'ai pas dit ça beaucoup dans les dernières années. C'est vraiment excitant comme amateur de sport de suivre les Alouettes ces temps-ci. Et avec toute la tourmente entourant la propriété de l'équipe dans les dernières années, disons que c'est un peu plus rafraîchissant pour les amateurs de football. Les Alouettes donnent tout un spectacle actuellement. Et si on va un peu plus loin que la région de Montréal, l'équipe préférée, Sylvain Bouchard, a aussi gagné. Les Bills sont parfaits, 3-3 depuis le début de la saison.
Le fun va être de bonne humeur comment ça se mène.
C'est ça.
Exact. Salut Dan, on se reparle dans quelques minutes. Il est 5h22 dans l'amorce. Un petit tour encore dans l'actualité. Il y a une nouvelle qui a attiré mon attention dans le Journal de Québec. Peut-être parce que ça me touche un peu plus personnellement, mais bon, en tout cas, vous allez voir pourquoi ça m'interpelle. Vous savez qu'il y a eu, dans les dernières années, plusieurs incidents assez douloureux, voire mortels, concernant des chiens dangereux. Bon, souvent, on les qualifie de type pitbull. Quoi qu'on se rend compte souvent qu'on n'est pas trop sûr de savoir c'est quoi la race exactement des chiens. Hein. On arrive avec un chien qui a la face écrasée puis on dit bon c'est un pitbull, alors que la plupart des vétérinaires disent que c'est difficile de déterminer exactement ce que c'est. Bon, ceci étant dit, on est arrivé avec une loi récemment, un cadre légal pour déterminer lorsqu'un chien est dangereux. Bon, il y a des amendes qui sont données aux propriétaires, ils doivent les faire évaluer, suite à plusieurs incidents, ils doivent les faire euthanasier. Il y a un cadre autour de ça. Et là, ce qu'on disait du côté de la sécurité publique, au Québec, c'est on va amener les chiens du côté d'un vétérinaire, puis on va évaluer leur dangerosité. Parce que les vétérinaires sont aptes à le faire. C'est ce qu'on disait. Puis ça semble tomber sous le sens. Or, dans le Journal de Québec ce matin, on apprend que dans la région de Québec, la grande majorité des cliniques vétérinaires ne sont pas habilitées à évaluer si un chien est dangereux ou non. Parce que ça prend des compétences supplémentaires d'un vétérinaire généraliste. Il faut être un comportementaliste. Puis pour être comportementaliste, d'après l'Ordre des vétérinaires, il faut faire une spécialisation de 3 à 4 ans à l'université après les 5 ans d'université. Donc, c'est une formation quasiment de médecin. Il faut pratiquement arriver à 9 ans de formation pour être capable de déterminer si un chien pose un danger ou non. Alors, du côté du journal, on est allé poser des questions à peu près à toutes les cliniques de Québec, à l'exception de deux. Toutes les autres ont dit, ben, on vous réfère soit à la SPA, soit au Fidèle Moustachu, les refuges, soit à des compétiteurs. Donc, à toute fin pratique, est-ce que les citoyens qui vont se faire dire, allez faire évaluer votre chien, vont être en mesure de le faire? C'est compliqué. Puis, un chien, c'est vraiment complexe. en partant, là, juste de comprendre le comportement d'un chien. Parlez-moi-en, j'en ai un depuis un peu plus qu'un mois et demi. C'est un travail à temps plein. Alors, j'ai compris depuis que j'ai un chien pourquoi c'est aussi difficile de travailler avec un animal, puis pourquoi il y a autant de gens qui laissent aller le dressage, puis ça fait en sorte que le chien devienne menace à un moment donné. Faut vraiment que tu te consacres, puis il faut que tu ailles chercher le soutien professionnel, puis de gens qui connaissent le comportement, puis d'éleveurs, puis tout ça. Fait que là, t'as bien beau mettre un cadre légal au Québec pour t'assurer que les gens fassent évaluer leurs chiens, puis que les chiens qui sont considérés dangereux soient mis hors d'état de nuire, si les vétérinaires, les professionnels de la santé animale sont pas capables de le dire, qui va être capable de le faire? C'est un gros problème, c'est un autre problème qu'on a de la difficulté à trancher, on dirait. Puis on se retrouve malheureusement encore avec des situations où est-ce que des chiens dangereux sont mal contrôlés par leur propriétaire. Il est 5h25, merci d'avoir été là dans l'amorce. Dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle qui commence. Et on se reparle demain matin pour une autre amorce à 5h. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.